RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Ce matin, on parle du rôle de l'argent sur le climat et plus précisément de l'impact nocif des investissements dans les énergies fossiles. Comment est-il possible de lutter contre ces investissements? C'est en tout cas l'objet d'une campagne lancée en direction des chrétiens et de leurs institutions par le collectif Lutte et Contemplation et par le mouvement Laudato Si. On va en parler. Notez que dans la seconde partie de l'émission, on regardera comment ce désinvestissement peut s'opérer concrètement en donnant la parole à des personnes qui sont déjà passées à l'action dans des diocèses ou des communautés. Vous entendrez une protestante et un catholique. Ce sera à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Avez-vous conscience de l'impact des investissements dans les énergies fossiles? Êtes-vous sensible à cette question? Savez-vous si votre diocèse ou votre paroisse a désinvesti ou s'apprête à le faire? Ou si vous pensez peut-être vous mobiliser d'ailleurs pour interpeller vos institutions chrétiennes sur le sujet? On vous attend avec vos témoignages au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et avec Anne Kerléo ce matin. Bonjour Anne.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous. Et
ce matin, on parle donc des investissements des énergies fossiles.
Oui, et comme souvent, pour entrer dans cette émission, je vous propose de citer un passage de ce qui est un peu notre texte de référence, l'encyclique Laudato Si du pape François. Et voici ce qu'il écrit au point 165. Nous savons que la technologie reposant sur les combustibles fossiles très polluants a besoin d'être remplacée progressivement et sans retard. C'était en 2015. Depuis, le pape a enfoncé le clou dans Laudate Deum et ses appels font écho à ce qui est affirmé par la communauté scientifique pour avoir une chance de respecter l'objectif de l'accord de Paris, de contenir le changement climatique sous la barre des 1,5 degrés, nous ne pouvons pas lancer de nouveaux projets d'extraction des énergies fossiles. Les autres églises chrétiennes sont à l'unisson du pape sur ce terrain et déjà ces appels sont repris et suivis des faits. En France, par exemple, la conférence des évêques a appelé au désinvestissement des fossiles. Alors pourquoi une campagne sur ce sujet est-elle lancée par Lutte et Contemplation avec le mouvement Laudato Si qui lui appelle déjà depuis un certain temps à ce désinvestissement? Eh bien, parce que ça ne va pas assez vite. Et c'est d'ailleurs ce dont le pape s'inquiète dans son récent texte Laudate Deum. Il appelle à passer à la vitesse supérieure. Alors comment faire pour accélérer le mouvement? Quel serait l'impact d'un désinvestissement massif? Quelles difficultés se posent dans ce processus? Pourquoi on ne va pas plus vite? Quel rôle peuvent avoir les chrétiens dans un mouvement plus large? Et au fait, pourquoi un chrétien devrait-il s'impliquer dans ce mouvement? Est-ce que cela a quelque chose à voir avec sa foi? Eh bien voilà de multiples questions, Melchior, qu'on se propose d'examiner ensemble ce matin.
Et avec, heureusement, nos deux invités qui sont avec nous jusqu'à 10h, Anne.
Oui, et d'abord, je salue Édouard Villepoux, bonjour.
Bonjour Anne.
Vous êtes membre du collectif Lutte et Contemplation, au sein duquel vous portez particulièrement cette campagne de désinvestissement des énergies fossiles. Vous êtes économiste de formation, vous avez travaillé dans la banque pendant plusieurs années et aujourd'hui vous souhaitez mener un travail de recherche sur les liens entre finance et environnement au service de la transition écologique. Et puis avec nous, quelqu'un qui est déjà venu dans Je pense donc j'agis, Julien Fournier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diplômé de l'école des mines, vous avez travaillé pendant 25 ans sur les marchés financiers et dans les banques. Et aujourd'hui, vous êtes membre de différents groupes de travail sur les limites de la finance verte. Vous avez coécrit avec l'économiste Alain Grandjean un livre qui s'appelle « L'illusion de la finance verte ». C'est paru aux éditions de l'Atelier. Vous êtes spécialiste des finances, mais si je ne m'abuse, pas du christianisme. Donc vous venez avec un regard un peu plus extérieur sur cette campagne. Et c'est ça qui nous a intéressés d'ailleurs en vous invitant pour avoir des points de vue différents.
Eh ben merci à tous les deux de nous accompagner dans cette première partie de Je pense donc j'agis. On va commencer, Anne, par la chronique Tout est lié et nous accueillons ce matin Alexandre Poidat. On précise qu'Alexandre est membre lui aussi du collectif Lutte et Contemplation et il est donc directement impliqué dans la campagne pour le désinvestissement des énergies fossiles.
Oui, c'est un hasard, ça aurait pu être Stécie Algrin qui, elle, n'est pas membre du collectif Lutte et Contemplation, mais ça tombe sur Alexandre. Bonjour Alexandre.
Bonjour Anne.
Alors vous avez choisi pour commencer cette émission de nous parler d'un concept qui est assez bien connu, c'est celui d'empreinte carbone.
Oui, l'outil le plus utilisé pour calculer notre impact individuel sur le climat via notre consommation. il est désormais largement répandu à travers des ateliers comme Deutone ou Inventons nos vies bas carbone. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à les expérimenter. Il a eu beaucoup d'influences positives sur les changements culturels et nos modes de vie ces dernières années. On trouve de plus en plus de personnes dans notre entourage qui boycottent l'avion, réduisent leur consommation de viande, prennent plus le vélo. Et c'est une bonne nouvelle. C'est un outil nécessaire, mais absolument pas suffisant.
Alors pourquoi pas suffisant ?
Prenons l'exemple d'un automobiliste qui consomme du gazole dans une station essence. Toutes les émissions de CO2 générées par l'utilisation de l'essence lui sont attribuées. Mais qu'en est-il de la responsabilité de la compagnie pétrolière qui a produit l'essence ? Ou encore des actionnaires qui détiennent une part de cette entreprise et touchent des dividendes ? Avec l'outil d'empreinte carbone de consommation, aucune émission de CO2 n'est attribuée à la multinationale ou aux actionnaires. D'ailleurs, c'est la compagnie pétrolière British Petroleum qui a popularisé cet outil entre 2005 et 2007 pour justement se défausser de sa responsabilité sur les consommateurs. Je le répète, les efforts individuels sont nécessaires et je me réjouis de toutes les bonnes volontés qui sortent de leur confort en changeant leur mode de vie. Mais je ne crois pas à un changement uniquement par la consommation. Et je ne suis d'ailleurs pas le seul. Le pape François lui-même, dans Laudate Deum, rappelle que les solutions les plus efficaces ne viendront pas seulement d'efforts individuels, mais avant tout des grandes décisions politiques. Les solutions passent donc aussi par la responsabilité des États, des multinationales et des actionnaires investisseurs qui ont le pouvoir sur ces entreprises.
Alors, comment mesurer une empreinte carbone qui prenne aussi en compte les investissements dont on va parler ?
Un chercheur, Lucas Chancel, a calculé. Si on prend un Français parmi les 10% les plus riches, il émet 16 tonnes de CO2 par an via l'outil de consommation. Alors qu'il émet en réalité 38 tonnes par an, soit deux fois plus, si on prend aussi en compte pas uniquement son mode de vie, mais aussi son épargne, qui va être investie dans des entreprises par exemple. Regarder aussi l'empreinte carbone d'investissement a le double avantage d'une part de responsabiliser les grandes entreprises et leurs actionnaires, mais aussi de mettre en lumière ceux qui ont le plus de pouvoir. En effet, les plus riches ne sont pas uniquement responsables individuellement de leur mode de vie, ils ont aussi le pouvoir de faire diminuer leurs émissions et celles des autres par les investissements dans des entreprises polluantes. D'un simple coup de téléphone à son conseiller en patrimoine, un millionnaire ou un milliardaire peut facilement transférer son argent d'une major des énergies fossiles vers une entreprise à la pointe des renouvelables. C'est pourquoi il est urgent d'avoir de plus en plus le réflexe de calculer l'empreinte carbone de nos investissements, suivre l'argent à l'avantage de responsabiliser les plus riches et de réduire les émissions de CO2 de toute la collectivité.
Eh bien, merci beaucoup, Alexandre Poidatz. On pourra réentendre votre chronique juste après la fin de l'émission. La chronique, tout est lié sur notre site rcf.fr. Je rappelle que vous pouvez également réagir pour nous parler de désinvestissement des énergies fossiles au 04 72 38 20 23. En tout cas, Anne, comme à chaque fois, ça nous donne vraiment du grain à moudre pour démarrer cette émission.
Oui, et c'est vrai qu'on revient à une question qui est très souvent évoquée dans cette émission, qui est celle du poids des petits gestes de chacun d'entre nous. Julien Le Fournier, ça vous paraît une porte d'entrée intéressante pour entrer dans cette question du désinvestissement des énergies fossiles ?
Oui et non. Oui, parce que ça met ce sujet sur la table. Je veux dire, le sujet, le financement des fossiles, c'est un sujet essentiel. Non, parce que là, par exemple, dans ce que vient de dire Alexandre, il y a des choses qui me vont pas. En particulier, pour moi, on additionne des pommes et des poires, et c'est très dangereux. Il mentionnait l'empreinte carbone qui est mesurée sur la consommation. Donc, on peut passer éventuellement assez facilement de la consommation à la production, hein, si on se dit que tout ce qui est produit est consommé réciproquement à peu près. Et donc, on peut attribuer du carbone aux producteurs, donc à Total Energy par exemple, mais dès qu'on parle de finance, puisque le troisième acteur qui a été mentionné c'est l'actionnaire de Total Energy, là ça marche plus en fait, parce que c'est très dangereux. Je vois partout des gens qui disent c'est des slogans commerciaux en fait, publicitaires. On dit un aller-retour ça vaut combien un aller-retour Paris-New York?
Deux tonnes.
Bon, 10 000 euros sur mon compte courant à la BNP Paribas, ça vaut 2 tonnes. Mais c'est pas les mêmes 2 tonnes, en fait. Le piège, c'est que, et donc les gens une fois qu'on a dit ça, on met un signe égal, on dit aller-retour à Paris-New York 2 tonnes, 10 000 euros sur mon compte courant à la BNP 2 tonnes, et on dit que donc c'est égal, puisqu'on passe par un tiers, et en fait, c'est complètement faux. Ces 2 tonnes équivalents c'est pas la même unité, hein. C'est les mêmes mots, mais c'est absolument pas la même unité. Et donc, faut faire très attention à ces raisonnements. Moi, je suis en désaccord profond avec, justement, les travaux que tu mets en avant de Lucas Chancel, où pour moi, justement, on additionne des pommes et des carottes. Et en fait, pour le public, on n'a jamais intérêt à le faire. Donc, le message de fond, et là, Alexandre a absolument raison, c'est de dire que les actionnaires, les porteurs obligataires, enfin les financiers, les financeurs, de tout poil, j'ai envie de dire, hein, les particuliers, les banques, les grands institutionnels, ont une responsabilité majeure dans le financement de l'extraction et d'exploitation d'énergie fossile, majeure. Mais il ne faut pas simplifier après avec ces équivalences-là où on compte les tonnes équivalent carbone, parce que là, on perd les gens, en fait. Et le risque, vous voyez, au bout du bout, c'est que je vais dire, OK, alors j'enlève 10 000 euros de mon compte de la BNP et puis, du coup, je compense et je peux faire mon aller-retour Paris-New York. Non, l'aller-retour Paris-New York, ça brûle du kérosène, c'est du vrai carbone brûlé, alors que le reste, c'est un raisonnement qui est à moitié fallacieux et on ne va jamais retrouver nos petits, vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ces approches.
Alors Alexandre, puisque vous êtes toujours en studio, peut-être une réaction.
Oui, très rapide. Mais je suis d'accord avec Julien de dire, en fait, jusqu'à présent, il y avait deux façons d'utiliser l'empreinte carbone, soit de consommation, soit d'investissement, et on ne pouvait pas les additionner. Et je me suis permis de citer Lucas Chancel parce que pour la première fois en décembre, il a permis de créer une méthodologie qui permet de ne pas avoir de double compte, justement. C'est ce que reproche Julien entre... En fait, d'un côté, on va attribuer les émissions aux consommateurs et en même temps, aux consommateurs qui vont mettre son argent, qui va aller aussi chez Total. Donc voilà, mais peut-être que c'est une méthodologie encore à plus creuser, mais je trouvais intéressant de la mentionner parce que c'est la première fois dans le monde que ça a été fait.
C'est vrai.
Mais sinon, sur la philosophie, je partage aussi ce qu'a dit Julien.
Mais ce n'est pas que la problématique du double comptage, tu as absolument raison, c'est la problème de l'équivalence. Ça n'est pas équivalent. En fait, il n'y aura jamais d'équivalence entre la méthode qui parle d'empreinte carbone produit, enfin, tel que les gens le connaissent. Tu prends comment on produit une voiture, on peut faire l'empreinte carbone sur tout le cycle de vie, etc. Et quand on est dans la finance, on est dans l'abstraction. Il n'y a pas de lien entre le physique et l'abstraction, en fait, et l'abstraction financière. Il n'y a pas de lien, on ne peut pas l'établir, en fait. Mais bon, ce sera un peu long de l'expliquer ici.
Ça montre que c'est quand même assez technique, ces questions-là. Édouard Villepoux, justement, est-ce que c'est compliqué de se lancer dans une campagne comme la vôtre, avec le risque, du coup, peut-être de simplifier pour rendre accessible en donnant des chiffres un peu chocs
Alors, c'est très simple. Effectivement, souvent, la finance est quelque chose d'un petit peu obscur, complexe, dont on se méfie et dans lequel on n'a pas envie de se jeter, à moins d'en faire son métier. En réalité, le message que Lutte et Contemplation porte au travers de cette campagne, c'est de dire, en fait, c'est simple. Soit on investit dans les entreprises qui ont des activités en désaccord avec les recommandations des scientifiques, soit on n'investit pas dans ces entreprises. Je ne vais pas revenir sur la discussion la méthodologie, mais il me semble que il y aurait un sujet technique à évoquer longuement, mais ce que Alexandre apporte, la méthodologie de l'économiste Lucas Chancel, c'est aussi une manière de prendre un peu plus de hauteur et se dire qui est responsable. Et ça, vraiment, le pape François, comme l'a dit Alexandre, dans Laudate Deum, le rappelle. Il nous déculpabilise d'une certaine manière sur l'écologie. On veut sortir de l'écologie punitive qui met toute la responsabilité sur le consommateur, sur ses gestes individuels. Mais le pape nous engage plutôt à participer au changement de culture. Donc les gestes comptent, c'est évident, mais le changement de culture collective compte encore plus, puisque en fait les leviers d'action qui seront vraiment efficaces sont entre les mains de ceux qui ont du pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir, c'est le pouvoir politique et l'argent. Voilà, donc nous, au sein du collectif, on entend ça, on est assez d'accord avec cette vision systémique de la crise écologique, de la possibilité de remettre en question nos systèmes économiques et financiers, pour leur attribuer justement une part de responsabilité dans le réchauffement climatique et la crise écologique de manière globale. Et charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc on s'est dit, tiens, il y a un problème avec les énergies fossiles. La société civile dans son entièreté est en train de se rendre compte qu'il n'y aura pas de transition écologique sans abandon net, clair et définitif des énergies fossiles. La société civile se rend compte aussi que les banques, en fait, sont de plus en plus... Enfin, on se rend compte de plus en plus que les banques sont liées, en fait, à ces activités. et que notre argent a un pouvoir. Notre argent a un pouvoir d'être complice de quelque chose ou au contraire de se faire l'allié d'une transition. Donc, notre souhait, c'est d'abord de regarder ce qui se passe dans les institutions chrétiennes. Voilà, il y a des institutions chrétiennes, c'est très inégal, mais certaines qui ont beaucoup de patrimoine, énormément pour certaines. Et on souhaite aller les dialoguer avec eux. Voilà. Et
on va voir aussi concrètement comment vous comptez faire ça. J'aimerais qu'on accueille François-Xavier, notre premier auditeur ce matin, au 04 72 38 20 23. Bonjour François-Xavier.
Bonjour monsieur. Je vais vous apporter un petit peu de contradiction, je suis désolé.
Ah ben non, vous avez le droit.
Je suis un peu effondré, je vais vous dire, de voir à quel point les associations catholiques, l'Église et les médias catholiques aussi, d'ailleurs maintenant, rentrent dans cette espèce d'idéologie qui voudrait faire de l'homme le maître de tout, qui est vraiment tout à fait contraire à la pensée catholique. L'homme n'est pas responsable du climat. Le climat, ce sont des forces qui nous dépassent. Votre précédent intervenant parler des scientifiques tout à l'heure, enfin des entreprises, des investissements dans des entreprises contraires à ce que disent les scientifiques, mais il y a des milliers de scientifiques qui sont vent debout contre cette histoire de responsabilité humaine dans le changement climatique par ces émissions de CO2, et parmi lesquels quand même des prix Nobel, des gens qui ont été considérés comme les plus grands spécialistes des questions climatiques, comme Richard Lindzen, par exemple, aux États-Unis, ou John Tozer, qui a été prix Nobel de physique en 2022. Et ces gens-là qui ont lu les rapports du GIEC avec beaucoup d'attention, comme notre physicien François Gervais en France, par exemple, qui a écrit deux très remarquables bouquins, ils disent que dans les rapports même du GIEC, on explique que, en fait, l'impact du CO2 d'origine humaine est quasiment nul sur le changement climatique.
Et François-Xavier...
Je te dis juste là-dessus. Oui. Le problème, c'est que on consacre des sommes astronomiques. D'abord, on va détruire toutes nos industries occidentales, enfin européennes, parce que les Chinois et les Américains, ils se portent très bien et ils vont tirer le marron du feu, comme c'est déjà le cas d'ailleurs.
François-Xavier, je me permets de vous couper la parole parce qu'on a encore beaucoup d'appels et voilà, on a compris ce que vous vouliez dire. Je vois que ça fait réagir quand même en studio. Je me tourne vers vous, Julien Lefournier, peut-être une réaction sur ce que nous a dit François-Xavier.
Non, j'en ai pas parce que là, c'est du pur climato-scepticisme. Donc, je veux dire, il y a rien à ajouter, en fait.
Moi, j'aurais envie d'ajouter quelque chose.
Oui,
notre auditeur a parlé d'argent qu'on mettrait au service d'une certaine idéologie. Je veux rappeler quand même que depuis la COP 21, donc l'accord de Paris en 2015, les 60 plus grandes banques mondiales ont financé le secteur des énergies fossiles à hauteur de 5 500 milliards de dollars. Voilà, donc c'est encore massif. Sur le financement des énergies fossiles, il y a eu un creux en 2020, une baisse en 2020, mais depuis, ça n'a fait que repartir à la hausse.
Mais enfin, peut-être quand même, Julien Lefournier, je comprends que vous disiez qu'il n'y a rien à en dire, mais si peut-être quand même resituer un peu les choses. L'auditeur a l'air de nous dire que, en gros, il y aurait des pour et des contre le rôle de l'homme dans le changement climatique. C'est pas juste de dire ça.
Non, c'est pour ça que je n'ai pas de commentaire. En 2024, quelqu'un qui nie l'origine anthropique du réchauffement climatique, pour moi, je veux dire, il y a plus de débat. On peut pas partir de là en 2024, si vous voulez. Voilà.
Mais on est un peu obligé parce que je pense qu'il est représentatif d'un certain nombre d'auditeurs et ça vaut le coup de leur répondre, je crois.
Oui, mais écoutez, là, on est au sixième rapport du GIEC. Que leur dire? S'ils écoutent pas, ils écoutent pas les scientifiques, ils écoutent pas le pape, ils écoutent personne. Donc, j'ai envie de dire, là, on est ou dans la mauvaise foi ou dans la bêtise absolue, je ne sais pas.
Pour compléter peut-être, remettre du contexte sur le GIEC. Qu'est-ce que c'est le GIEC? C'est un groupe intergouvernemental de scientifiques sur le climat. C'est donc un regroupement qui analyse tous les travaux de recherche qui sont faits par les scientifiques sur les sujets de climat et de biodiversité et qui en tire un consensus. Autrement dit, le GIEC a une méthode très conservatrice. Un élément de la recherche qui ne fait pas consensus est rejeté. Donc quand on dit aujourd'hui le consensus scientifique, c'est une réalité méthodologique. Et ce que dit le GIEC n'est pas contesté par des scientifiques. Et on a un certain nombre de scientifiques climato-sceptiques qui se revendiquent comme étant membres du GIEC. En réalité, ils sont souvent relecteurs uniquement, quelque chose qui est accessible à n'importe quel scientifique. Il n'y a pas de de critères de sélection, contrairement aux auteurs et aux superviseurs des différents groupes de travaux. Donc, voilà, Julien l'a dit, hein, qui on écoute.
Donc, redire ici que nier le changement climatique n'est pas une opinion, mais une erreur, tout simplement. Mais exactement. Peut-être que j'entends ce que vous dites, on est en 2024, mais en même temps, c'est important de pouvoir répondre. Alors, venons-en quand même à notre sujet, qui est celui des investissements et du désinvestissement des énergies fossiles. D'abord, qu'est-ce que c'est ? Enfin, quand on parle d'énergie fossile, Edouard Huilpoux, on parle de quoi ?
On parle d'entreprises qui explorent notre sous-sol et qui extraient du pétrole, du gaz et du charbon. Notre économie contemporaine depuis la révolution industrielle, elle est dépendante de ces énergies, elle s'est construite sur ces énergies. Et ces rapports du GIEC justement et d'autres groupements comme l'Agence internationale de l'énergie ont vraiment établi le lien de causalité entre le réchauffement climatique et l'extraction et l'utilisation de ces énergies. Donc pourquoi ça pose problème ? Parce que si on continue de les utiliser, le réchauffement climatique tout simplement ne va pas diminuer. Il est, rappelons quand même qu'il est encore en hausse. Hein. On est bien au-delà des trajectoires souhaitées pour respecter l'accord de Paris. Il y a une étude en particulier qui a montré que 2023 a connu un réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle de 1,48 degrés. Donc vous voyez que l'objectif de limiter à 1,5 degrés la hausse à horizon 2100, on en est loin, puisqu'on est déjà entré sur presque en train de toucher ce plafond souhaité.
On pensait que vous vouliez compléter votre phrase, Edouard Huilpoux, puisque votre voix était haute. Non, il n'y a pas de problème.
J'attendais votre autre question.
Alors. Ça, c'est là, vous parlez de l'extraction des entreprises de fossiles. Comment, Julien Le Fournier, arrivent les banques et toute la sphère financière autour de ces questions-là ? Peut-être des chiffres aussi. L'investissement dans les énergies fossiles, c'est combien ?
C'est pas facile. Ça, c'est Alexandre qui connaît ça mieux que moi. Il y a des chiffres qui ont été rappelés là par Edouard sur le financement depuis l'accord de Paris. Hein. Prenons ça comme date de référence parce que c'est le moment où tout le monde s'est mis à larmoyer. Laurent Fabius a donné un petit coup de maillet et on pensait qu'on avait changé d'humanité. Et en réalité, depuis, on s'est rendu compte que il y a des milliers de milliards qui ont été encore investis dans le développement de l'extraction de nouveaux champs pétroliers et gaziers, etc. Donc ça, c'est le point critique, en fait, parce que évidemment, on s'est pas réveillé un matin en se disant, tiens, il y a plein de pétrole partout, il y a plein de gaz partout, on sait le système dans lequel on est. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? C'est la dynamique. Et là, la dynamique est profondément mauvaise. C'est ce que disait Edouard. Hier, l'année dernière, on a mesuré donc un réchauffement sans précédent. Et donc, on est sur une trajectoire qui est mauvaise. Et donc, on fait semblant. Donc, à quel moment interviennent les financiers ? C'est que, bien, pour développer toutes ces activités, il y a besoin d'argent. C'est ce que disait Alexandre. Et l'argent, il vient à différents moments, à différents endroits. La partie la plus visible, c'est ce qu'on appelle le financement de projet. Vous faites un gazoduc, vous avez besoin d'argent. Et donc, il y a de l'argent qui est fléché pour ce projet-là. Donc, comme ça, c'est assez visible. Les banques, en tout cas les banques françaises, se mettent à ne plus financer ça. Parce que là, tout de suite, immédiatement, vous avez Alexandre Poidatz qui vient vous voir et qui vous dit, regardez. Et là, on arrive vraiment à tracer l'argent. Follow the money. Jusqu'au gazoduc ou jusqu'à... Et donc ça, les banques le font plus. C'est la partie vraiment la plus visible de l'iceberg. Mais vous avez ensuite, plus discrètement, une fois que vous faites plus ça, vous financez ce qu'on appelle, c'est des financements corporate. Vous financez l'entreprise elle-même comme un tout. Hein. Vous donnez de l'argent donc à Total Energy, non pas pour faire ICOP, mais juste vous donnez de l'argent à Total Energy, point barre. Ça s'appelle General Corporate Purpose, c'est-à-dire vous donnez de l'argent à l'entreprise, elle en fait ce qu'elle veut. Et évidemment... Dans ce qu'elle veut, il y a n'importe quel projet, y compris brun, etc., etc. Le troisième étage de la fusée, encore moins visible pour le public, c'est que ce n'est pas de l'argent qui est prêté à travers le bilan de la banque, mais c'est le financement obligataire. C'est-à-dire que toutes ces entreprises se financent aussi sur le marché financier directement. C'est ce qu'on appelle la désintermédiation. Elles vont émettre des obligations qui vont être achetées par des investisseurs finaux. Et qui on retrouve au milieu de ce business ? Les banques. Hein. Parce que Patrick Pouyanné ne vend pas ses obligations lui-même sur les marchés. Il utilise des banques, des grandes banques, pour ce faire. C'est un métier. Et donc, elle distribue ses obligations sur les marchés financiers. Et donc, on retrouve les banques partout. Et en général, on n'a pas de vision holistique de ça. Les uns s'attaquent au premier étage de la fusée, les autres au second, les autres au troisième. J'ai encore pas vu une étude de cas qui nous montrerait où se situent les banques, par exemple, en prenant le cas d'école Total Energy. Mais en tout cas, elles sont partout. Et donc, elles contribuent massivement à l'activité Total Energy. Alors aujourd'hui, les banques françaises nous disent on fait plus les projets les plus visibles parce qu'on se fait taper dessus. Donc il y a même un banquier qui apparaît de l'acheter. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la vigilance du public et un risque réputationnel, il le ferait encore. Mais donc, pardon.
Oui, non, mais vous faites bien de vous arrêter, Julien Lefournier, parce qu'on doit marquer une petite pause. Édouard Villepou, vous voulez réagir? On va en parler juste après, justement, cette pause. Avec toujours vos témoignages au 04 72 38 20 23. On accueillera Bernard et Michel dans quelques instants. Vous pouvez également nous envoyer des mails à l'adresse direct@rcf.fr. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléau, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Avec nos deux invités jusqu'à 10h, Julien Lefournier, je rappelle que vous êtes diplômé de l'École des Mines. Aujourd'hui, vous êtes membre de différents groupes de travail sur les limites de la finance verte. Vous êtes à ce titre l'auteur avec l'économiste Alain Grandjean du livre « L'illusion de la finance verte ». Et puis avec nous également Édouard Villepou, membre du collectif Lutte et Contemplation, au sein duquel vous portez particulièrement cette fameuse campagne de désinvestissement des énergies fossiles. Édouard, vous vouliez réagir juste avant la pause.
Oui, l'intervention de Julien était vraiment nécessaire. Il a rappelé les différents canaux de financement qui existent pour les entreprises des énergies fossiles. Et ça nous montre qu'on a la responsabilité de ne pas être dupe. Aujourd'hui, quand une grande banque française annonce, fanfaronne en disant « Nous arrêtons de financer le projet ICOP, nous arrêtons de financer le projet Papua LNG », qui sont des projets largement décriés. En réalité, c'est faux, puisqu'il y a encore le canal de ces financements corporate, donc la banque finance l'entreprise dans son entièreté, et la banque qui accompagne l'entreprise pour émettre des obligations sur les marchés. Donc ces annonces, elles sont purement marketing, elles sont fausses. Et nous, chrétiens, avons le devoir, je pense, de ne pas être dupes en entendant ces annonces et de ne pas nous payer de mots. Voilà, les banques se payent de mots. Et j'avais envie de revenir sur quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours, plusieurs maintenant. Les Scouts et Guides de France ont publiquement demandé des explications à leur banque, la BNP, au sujet des financements qu'elle accorde à l'expansion des énergies fossiles et qui sont, je cite, le courrier des Scouts et Guides de France, qui sont incompatibles avec la préservation d'un monde vivant. Voilà, donc je voulais féliciter les Scouts et Guides de France. Je trouve que c'est courageux et j'invite évidemment les autres mouvements de scoutisme à avoir cette parole publique, les Guides et Scouts d'Europe et les Scouts Unitaires de France. C'est une question de cohérence. On ne peut pas envoyer chaque été des milliers de jeunes en forêt pour apprendre les choses essentielles de la vie et de la nature et en même temps, participer au financement de la destruction de notre maison commune.
Oui, elle est intéressante cette lettre donc envoyée par les Scouts et Guides de France à la BNP. L'histoire est pas finie, hein, on en reparlera sur cette antenne très certainement puisque une rencontre est prévue. Mais en même temps, cette lettre envoyée montre bien la difficulté. Ils expliquent qu'en fait, pour leur placement, ils ont choisi d'autres banques plus vertueuses de leur point de vue, mais que ils demandent des explications à la BNP. Mais en même temps, ils vont pas changer de banque parce que c'est trop compliqué du point de vue de leur gestion. Ça montre bien que c'est pas des choses non plus qui se font en un claquement de doigts. Pourquoi ça peut être compliqué?
Alors, à l'échelle d'une institution comme les Scouts et Guides de France, qui a de nombreuses ramifications sur le territoire, effectivement, c'est quelque chose de complexe. Ça n'est pas impossible. Moi, j'aimerais me positionner du côté de l'investisseur. Un investisseur, s'il a la motivation d'arrêter de financer les énergies fossiles, il a un coup de fil à passer à son banquier, à lui donner une instruction. Et le banquier, s'il est de bonne volonté, c'est trois clics d'ordinateur. Voilà. C'est vraiment très simple en réalité. Si on ne veut plus investir d'argent dans Total Energy ou d'autres entreprises, c'est vraiment très simple. Il suffit d'un peu de bonne volonté et les outils suivent très facilement. Alors après, changer de banque pour une organisation opérationnelle, effectivement, ça je le reconnais, ça prend du temps. C'est possible et j'espère à l'avenir entendre une annonce de changement de banque, pourquoi pas pour la Banque Postale de la part des Scouts Guides de France.
Ouais, ça tombe bien ce que vous dites, hein, Edouard, puisqu'on a Bernard avec nous, 04 72 38 20 23, qui est un petit peu concerné par ce que vous venez de dire. Bonjour Bernard.
Bonjour Melchior, et j'adore l'émission du mardi. J'aime bien tous les jours, mais celle du mardi, j'en loupe pas beaucoup. Eh bien oui, j'étais client du Crédit Agricole, et plusieurs années de suite, je leur ai dit, je vais m'en aller. Parce que je ne supporte plus que vous financiez les énergies fossiles. Et je suis arrivé à La Poste, qui, elle, n'en finance pas. Et donc, j'étais très content de ça. Alors, c'est vrai, comme dit votre interlocuteur, ça m'a coûté du temps, de l'énergie, c'était un peu fou. Mais bon, maintenant, c'est facile, parce que la banque, elle s'occupe de tout changer. Ça se fait de banque à banque depuis la nouvelle loi de je ne sais plus quelle année. Enfin bon, c'est quand même plus simple. Mais ça a pris du temps. Mais voilà, je suis très heureux de l'avoir fait. Et on est aussi consomme acteur. J'aime bien ce terme. Mmh. Voilà.
Eh ben, écoutez, voilà. Merci beaucoup. Merci Bernard pour votre appel et vous parliez de l'aide à la mobilité bancaire. C'est possible, Edouard Villepoux, ça reste pour les particuliers relativement simple.
Oui, pour un particulier, c'est très simple grâce à la mobilité bancaire, mais je pense que il faut se placer à une échelle collective hein, sur ce sujet. Hein. La responsabilité individuelle est importante, mais il faut se placer à une échelle collective. Et à ce regard, les institutions chrétiennes ont une vraie responsabilité. Parce que ce qui compte, c'est les personnes qui pèsent, si vous me permettez le mot, qui pèsent, donc qui sont des investisseurs massifs. Il y a un exemple qui est très marquant et sur lequel on se base beaucoup, c'est l'Église anglicane. L'Église d'Angleterre, qui a une gestion de son patrimoine très centralisée, un fonds qui représente quelque chose comme 10 milliards, a longtemps fait ce qu'on appelle de l'actionnariat actif, engagé. C'est-à-dire qu'elle était actionnaire de ces entreprises des énergies fossiles et elle menait en interne un combat pour un changement des activités vers une économie plus bas carbone. Ça n'a jamais fonctionné et ils ont fini par claquer la porte et désinvestir. Et c'est à cela qu'on invite, nous, Lutte et Contemplation, toutes les institutions chrétiennes, parce qu'en se rassemblant, ça fait des montants d'argent qui sont beaucoup plus colossaux que le compte de notre auditeur, je pense, et le mien. Et c'est cela qui aura un impact. Notre responsabilité en tant que chrétien dans la société, elle est assez peu assumée en France. Le collectif, il est né l'année dernière au travers notamment d'une tribune de 400 jeunes catholiques qui avaient demandé aux évêques français de se positionner contre le projet ICOP de Total, un positionnement qui avait été très nettement pris par le pape François et le Vatican. Et bon, après plusieurs échanges avec les évêques et avec des responsables de Total, les évêques français ont choisi de ne pas se positionner clairement contre ce projet et d'inviter à un dialogue, voilà, un dialogue qui n'en finit pas, on le sait, et qui pendant ce temps-là permet le business as usual, les activités qui continuent.
Justement, quelle est la tonalité sur laquelle vous avez choisi de poser cette interpellation? Parce qu'on sent dans votre discours à Lutte et Contemplation, à la fois il y a ce que vous venez de dire, disant l'Église se positionne pas suffisamment, et en même temps vous soulignez aussi le fait que malgré tout les évêques français ont pris position contre les investissements dans les fossiles. Donc on sent que vous êtes un peu sur un fil, quoi, une corde un peu raide.
Parce que il y a effectivement une parole institutionnelle qui est déjà là en partie. Hein, la conférence des évêques de France a repris cet appel à désinvestir. Elle l'a écrit dans un texte. Le problème, c'est que ça se traduit pas en actes. En tout cas, pas assez. Et la traduction en actes ne dépend que de la bonne volonté des évêques, des économes diocésains, des responsables de communautés et de congrégations. Or, dans l'Église, il y a très souvent un manque de temps, un manque de moyens, de compétences, peut-être même parfois d'intérêt pour le sujet. Donc, cette invitation à désinvestir, elle n'a pas de suite. Elle n'est qu'à l'échelle d'une parole pour le moment.
Alors, vous allez nous dire tout à l'heure comment vous faites concrètement, mais Julien Le Fournier, quel regard vous portez-vous sur cette campagne-là et sur la place que peuvent avoir les groupes de croyants ou de philosophie aussi, pourquoi pas, dans cette question-là, dans toutes ces questions-là?
Écoutez, là je suis un peu embêté parce que j'ai l'impression que je n'ai pas un monde sympathique, mais auprès d'Edouard et d'Alexandre qui nous a quittés, mais moi il y a une chose, c'est-à-dire j'ai l'habitude de ces propositions de désinvestissement, hein, sont portées ici par cette initiative, mais par exemple Lucie Pinson de Reclaim Finance aussi s'inscrit beaucoup dans une logique de désinvestissement. Et j'en mesure toute la portée symbolique. Hein, et quand je pense, puisque tu mentionnais l'Église anglicane, je pense que c'est aussi assez courant du côté des fonds de dotation des universités, par exemple, hein, où il y a les étudiants qui poussent. Donc je vois cela. Il faut quand même rappeler que historiquement, donc on connaît bien, c'est même la naissance de l'investissement responsable. Hein, à l'époque, on parlait de sin stocks, les actions du péché, et donc la logique était de ne pas les acheter. Évidemment, c'était tout à fait légitime de ne pas vouloir financer l'alcool, la pornographie, le tabac, etc. Mais c'est une logique de morale individuelle. Et aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est une logique collective et, j'allais dire, d'efficacité. Parce que cette logique individuelle, elle n'a jamais fonctionné. Hein. Savez-vous qu'au 21e siècle, on prévoit qu'il y aura 1 milliard de morts humains du tabac? Hein, le tabac, c'est 500 ou 600 milliards de revenus. Prenez n'importe quel sujet. Vous pensez qu'aujourd'hui, la pornographie a régressé? Donc, en fait, ça a toujours existé. Et pour moi, c'est complètement légitime. On a tout à fait le droit de ne pas vouloir financer, à l'époque, le tabac, encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, les pétroliers et les entreprises gazières et pétrolières. Mais par contre, si on réfléchit en termes d'efficacité économique, est-ce que ça fonctionne? La réponse est non. Hein, il y a jamais aucun boycott qui a fonctionné. D'ailleurs, et donc c'est un peu mon problème, c'est que on vend du rêve en fait en disant ça. Aujourd'hui, savez-vous que Total Energy rachète ses actions en bourse, hein. Ils ont annoncé 20 milliards de profits, c'est la première performance du CAC 40 il y a quelques jours, et ils rachètent leurs actions en bourse. Ils ont pas besoin de votre argent, ils font la même. Vous voulez pas acheter leurs actions, ça tombe bien, ils les rachètent eux-mêmes, voyez. Donc moi c'est là-dessus que je viens un peu embuter, parce que il faudrait pas qu'on fasse croire. Le paradoxe, c'est de faire croire au public qu'avec cette position, on résout le problème. On résout pas le problème. On est sur un problème qui est systémique, et ça, on est tous d'accord pour le dire. On est dans cette logique, et donc ça, c'était le début de l'intervention d'Edouard et d'Alexandre qui disent, finalement, et moi j'aime bien parler, citer cette étude de Carbone 4 qui dit, en gros, il y a 25% du sujet, si on parle de décarbonation, qui peut se jouer au niveau individuel, et 75% qui est en fait fondu dans le système socio-technique, d'accord? On a 25% à notre main. Donc, effectivement, c'est la dimension, les 75%, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts personnels, mais enfin, c'est trois fois le sujet essentiel, c'est le sujet du système. Et paradoxalement, quand on parle de désinvestissement individuel, alors qu'on s'adresse justement au financement donc du système extractif pétrolier et gazier, on repasse à nouveau la responsabilité sur l'individu, c'est-à-dire en tant qu'actionnaire ou acheteur de. Et en fait, tout simplement, ça fonctionne pas. Au bout du bout, quand on regarde, ça fonctionne pas. Le mot clé ici, c'est le mot boycott. Dans la nature, vous n'avez pas de boycott qui a réussi, à part celui qui a donné son nom au mot, celui de Charles Boycott, hein, en 1875. Monsieur Charles Boycott a été effectivement victime d'un boycott, mais parce que l'ensemble du comté, c'était des Irlandais qui se sont... c'était une démarche collective, ils ont mis 2 ans, parce qu'il fallait que les fermiers puissent tenir, hein, sans les revenus du fermage. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est un mot un peu fétiche, mais dans la pratique, ça fonctionne pas. C'est tout simple.
Alors, Edouard Villepot, compliqué de réagir, ça vous décourage ou pas?
Non, pas du tout. Au contraire, en fait, ça m'encourage. Et je pense que, avec Julien, on est tout à fait d'accord. Hein. Le sujet, il est collectif. Il est vraiment sociétal. C'est pour ça que nous, on invite les chrétiennes et les chrétiens à passer l'échelon du dessus. Voilà, il y a l'individuel et il y a le collectif. Alors nous, notre premier... échelon collectif, bah, c'est l'Église, c'est nos communautés chrétiennes. C'est pour ça que on a mis en place cette campagne qui permet, je le redis, hein, à chacun de se saisir très simplement du sujet, sans prérequis sur la finance ou sur le climat, et d'avoir une action concrète. L'action concrète, c'est d'écrire un courrier, enfin d'écrire, on l'a déjà préparé pour tout le monde, mais d'envoyer un courrier à son responsable d'église pour engager un dialogue sur les placements financiers qui sont faits avec l'argent de la communauté. Voilà, parce que très souvent, c'est délégué à un tiers, donc un banquier, un gestionnaire financier, qui lui est peut-être pas aussi regardant que nous, en tout cas qui a pas les mêmes critères, les critères qui en interne pour nous sont la doctrine sociale de l'Église. Voilà, il y a une action qui est très facile à faire du point de vue individuel et qui a un impact sur le collectif, sur l'échelle collective. Et nous, on pense que l'Église a une responsabilité dans la société. L'Église a droit à une parole politique. Parfois, elle l'emploie sur des sujets. C'est souvent des sujets de bioéthique ou des sujets sociétaux. On espère que de plus en plus, les églises auront une parole prophétique sur l'écologie.
Et c'est là où on en arrive à ce que dit Julien Lefournier, qui est c'est systémique et c'est le système qu'il faut faire bouger. Ce que vous proposez, vous dites que ça participe du changement de culture qui arriverait à faire bouger plus politiquement ce système.
Exactement. Le désinvestissement, il a plusieurs... le désinvestissement des énergies fossiles, hein, donc je le redis, qui consiste à arrêter de placer son argent dans des entreprises des énergies fossiles. Il a plusieurs efficacités. La première, c'est de jouer sur le coût du capital. C'est-à-dire que c'est plus difficile pour une entreprise comme Total de se financer si y a de plus en plus de monde qui ne veulent pas la financer. Voilà. Donc c'est de plus en plus difficile pour elle et coûteux. Après, c'est vrai que voilà, à notre échelle, ce levier-là, il sera assez peu activé, hein, parce que voilà. L'Église n'est pas le premier actionnaire du monde, loin de là.
C'est complètement théorique, hein, parce que je viens de rappeler que Total rachète ses actions.
Oui. Donc, Et le deuxième impact, et c'est là où on veut agir du désinvestissement, sa deuxième efficacité, c'est la parole publique, c'est la parole symbolique qui participe à ce changement de culture. Je veux dire, si nombre d'institutions de la société, à commencer par les institutions religieuses, ont une parole publique, qui est pour nous une parole prophétique sur le sujet, en fait, on participe à notre échelle, voilà, à ce changement de culture. Et c'est ce changement de culture qui permettra ensuite à ceux qui élaborent les réglementations, les politiques publiques, de mettre en place les bons outils pour freiner le développement et l'arrêter même, hein, je l'espère, le développement des énergies fossiles.
Un message, celui de Michel, reçu par mail. Il y a beau jeu de culpabiliser les citoyens qui déjà baissent, déclarent, éteignent, ne serait-ce que pour économiser sur leurs factures, alors que les porte-conteneurs qui transportent à travers toute la planète des produits souvent bas de gamme ne se privent pas, en plus de dégazer en pleine mer, et ne sont pas taxés sur leur consommation d'énergie fossile. Trop de sentiments d'injustice créent un climat délétère dans le cœur des gens de bonne volonté. Merci beaucoup Michel pour ce message. Julien Lefournier, je me tourne vers vous. Comment on trouve un peu d'énergie, justement, alors sans mauvais jeu de mots, mais pour réussir à peut-être inverser la tendance?
Quelle tendance?
Pour réussir tout ce que vous dites depuis le début de cette émission.
C'est compliqué. Pour ce qui concerne la finance, c'est compliqué. Moi, je pense que de toute manière, ça, c'est la partie que je prends de l'initiative de... porté par Édouard et Alexandre, c'est-à-dire qu'on parle du sujet. Je pense qu'il faut parler des énergies fossiles. Hein. C'est le robinet qu'il faut fermer. Donc, attirer l'attention des gens sur ce robinet, je pense que c'est très important. Parce qu'une fois que le CO2 a été brûlé, hein, il est beaucoup plus difficile de l'enlever de l'atmosphère. En fait, on n'y arrive pas. Hein. On parle de séquestration, de trucs complètement délirants qui n'existent pas. Donc, c'est quand même le sujet. Après, faut pas tomber dans des logiques de bouc émissaire. Je pense que c'est très important de justement parler du système. Les États ont leurs responsabilités. Hein. Monsieur Biden distribue des licences pour forer en Alaska. Monsieur Rishi Sunak distribue des licences pour forer. Les pétroliers font pas ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Hein. Donc, il y a une responsabilité des États, évidemment. Il y a une responsabilité majeure des banques. Hein. Les banques d'abord et avant tout. C'est pas le petit actionnaire ou le petit porteur obligataire. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut... effectivement, faut en parler, à la fois pour regarder la complexité et voir que... il faut agir aussi par la réglementation. Moi, c'est la limite de ce qui est dit. Le désinvestissement volontaire ne nous sauvera pas. Hein, je vous l'annonce de manière fracassante, je vous le dis, ça n'a jamais fonctionné et ça ne fonctionnera pas plus ici aujourd'hui qu'hier. Hein. Vous prenez encore une fois n'importe quel sujet, ça n'a jamais fonctionné, d'accord ? En plus, quand tout à l'heure j'ai décrit tous les moyens de financement de Total, j'oubliais celui qui reste et qui est à sa main, c'est l'autofinancement. Quand on est une entreprise qui fait 20 milliards de profits, ils peuvent financer leurs propres investissements. Hein. Donc, si vous voulez moins de pétrole, il faut réglementer. Hein. Il faut répartir la contrainte. On n'y arrivera pas autrement parce que sinon, ils prétendent tous, mais pas seulement Total Energy, les Saoudiens, ils prétendent tous vouloir être ceux qui vont vous fournir la dernière goutte de pétrole, celle qu'on voudrait qu'il soit encore disponible en 2050. Donc, vous voyez qu'on retombe toujours sur cette problématique de on ne sait pas répartir la contrainte. Et donc, il faut continuer à en parler. Il n'y a pas de solution miracle, mais il faut changer les choses très profondément. En fait, on se rend compte que c'est pas un curseur qu'il faut bouger de 0,4 à 0,5 pour régler le problème. C'est un problème beaucoup plus important. Et dans ce cas, et moi, je dis personnellement, par exemple, la parole évidemment du pape François est très importante.
Et en même temps, le pape François invite à aller plus vite et à passer à l'action. Alors, on entend toutes les réserves, hein, mais je crois que la chose sur laquelle vous vous accordez, c'est le fait d'en parler et donc de rendre public. Et ça, Édouard Villepous, c'est une des dimensions importantes que vous mettez en valeur dans le kit de campagne que vous proposez. Dites-nous peut-être très concrètement, en fait, quelqu'un qui nous écoute et qui, malgré tout, est convaincu que ça peut être utile de participer à votre campagne, comment il s'y prend ? Qu'est-ce que vous l'invitez à faire ?
Alors déjà, ça lui prendra 15 minutes. Il n'a pas besoin de savoir grand-chose sur la finance ou le climat. Il a juste besoin de bonne volonté. On a rédigé ce kit dont vous parlez qui permet de comprendre facilement le sujet, d'avoir des chiffres un peu clés, de cerner la dimension systémique. Et ce kit, on l'a résumé en moins de 2 pages. Voilà, donc on peut le lire très facilement. Il est accompagné de modèles de lettres qu'on a préparés à envoyer, à adresser à son responsable d'église pour engager un dialogue. Ce dialogue, il a un objectif, hein, c'est de mettre plus de cohérence entre notre foi chrétienne, les enseignements qu'on tire de notre foi chrétienne, et ce que l'on fait avec l'argent de nos communautés. Nous, chez Lutte et Contemplation, nous voyons que le patrimoine financier des églises participe encore souvent à ce système des énergies fossiles. Nous pensons que l'argent de nos communautés n'est pas uniquement l'affaire du responsable de communauté, mais de tous les membres de la communauté. Voilà, c'est pourquoi on sensibilise et on responsabilise les chrétiens sur ce qu'il se passe avec l'argent de leur communauté. Et nous voulons engager ce dialogue, qui a une portée vraiment morale assez haute, et chacun, individuellement, peut y participer. Voilà.
Les gens, vous les invitez, donc la première étape c'est écrire une lettre, vous l'avez dit, c'est très simple puisque vous proposez un modèle, il suffit de la signer, de l'envoyer, mais en même temps c'est une lettre qui invite au dialogue. Donc si l'évêque ou la personne à qui elle est envoyée répond et dit ok, je veux bien dialoguer, du coup ça veut dire, vous dites il n'y a pas besoin d'être spécialiste de finance ou de climat, mais il faut quand même avoir un peu de répondant pour être capable de mener ce dialogue.
Oui. Alors si effectivement le dialogue va un peu plus loin que ce courrier, le kit est tout indiqué pour avoir tous les repères, hein, pour mener ce dialogue. Hein. On a un kit qui fait une quinzaine de pages. Si vous le lisez en entier, vous êtes complètement compétent sur le sujet. Hein. En tout cas, pour en parler à votre responsable d'église. Et s'il y a un besoin supplémentaire, l'équipe du collectif Lutte et Contemplation est bien évidemment mobilisable. Voilà. Tout ce que j'ai expliqué là peut se retrouver sur notre site. Hein. luttecontemplation.org avec un pas à pas qui est très clair. Voilà, on a essayé de rendre la chose la plus claire possible.
Alors, la campagne a été lancée il y a quelques jours, par une visio le 4 mars, et y a eu déjà pas mal de participants qui ont l'air partants pour entrer dans la démarche.
Oui, beaucoup. Il y a 400 personnes qui avaient manifesté un intérêt pour la campagne en s'inscrivant à cette conférence. On l'a suivi dans son intégralité, on était 150 environ. On reçoit déjà sur nos boucles de discussions partagées des actions des uns et des autres. Je pense à une religieuse qui nous dit « ça y est, j'ai obtenu un rendez-vous avec mon évêque ». Voilà, donc cette mobilisation, elle est à la fois à destination des laïcs et des religieux, puisque certains sont très partants pour s'en saisir aussi.
Alors, je voudrais, parce qu'on l'a dit de manière très allusive depuis le début, que vous nous disiez pourquoi c'est en tant que chrétien que vous vous engagez dans cette campagne-là. Pourquoi un chrétien, de votre point de vue, doit être mobilisé sur ces questions-là, en fait ?
Merci beaucoup, Anne, pour cette question, parce qu'elle va me permettre de dire un petit peu ce qui est pour moi le plus personnel. On a parlé des scouts et guides de France qui ont une parole publique sur le sujet. Moi, j'ai été scout de 7 à 22 ans. J'ai été chef quand j'étais adulte. Et dans les petits rituels d'engagement qu'il y a au sein du scoutisme, notamment, il y a le départ routier quand on est adulte. Et le chef pose aux jeunes adultes des questions. Et il y en a deux qui se sont vraiment incrustés profondément en moi et qui ont contribué à bâtir l'homme que je suis, que j'espère être. Je vais vous les lire, ces deux questions. As-tu compris qu'un routier a l'amour passionné de la vérité, qu'il ne se contente pas d'à peu près ou de la possession tranquille des vérités toutes faites ? As-tu compris, par notre amour de la nature et du camp, qu'un routier ne se paye pas de mots ? Promets-tu de conformer tes actes et tes pensées aux exigences du réel ? Voilà, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, l'exigence du réel, c'est de retirer les œillères que nous avons et qui cachent cette multitude de puits de pétrole que l'homme creuse un peu partout sur notre planète et qui condamne non pas uniquement l'homme mais toute la création, toutes les créatures, à la destruction, en tout cas des formes d'habitat et de vie très précaires. Et c'est ma foi qui est incarnée, qui me met en mouvement pour tout cela. Je ne peux pas vouloir suivre le Christ, Dieu incarné sur terre, et en même temps détourner mon regard de ce qu'il se passe sur terre. Voilà, si je suis chrétien, ce n'est pas uniquement pour regarder vers le ciel, mais vers la terre, m'occuper de la terre et des hommes et des femmes qui la peuplent. J'ai donc une responsabilité en tant que chrétien. Cette responsabilité, c'est de ne pas me payer de mots, de ne pas être dupe de ceux qui se payent de mots, les banques. Les grandes banques françaises, en tout cas, qui financent Total Energy et d'autres entreprises. Et je veux inviter tout le monde, tous ceux qui se retrouvent dans la foi chrétienne qui est au cœur de ma vie, à voilà, ne pas se payer de mots, à conformer nos actes et nos pensées aux exigences du réel. Voilà. Et j'invite en particulier nos responsables d'institutions qui ont du pouvoir à suivre cette trace que le pape François a ouverte.
On arrive tranquillement vers la fin de l'émission. Julien Le Fournier, je voudrais que vous nous disiez, puisque vous, on a bien compris qu'en fait, vous portez un regard assez à la fois bienveillant sur cette initiative, mais tout en disant elle va pas changer fondamentalement la donne. Mais du coup, on peut se dire, alors si vous estimez que ça peut pas changer la donne, comment chacun de nous, auditeurs, citoyens, citoyennes, auditrices, peut contribuer de votre point de vue à changer la donne de manière plus systémique ?
Oui, vous avez raison. J'ai beaucoup de bienveillance pour l'initiative et je pense que le côté symbolique et le fait de sortir de l'invisibilité, la finance, c'est quelque chose de très très positif. Après, aussi la création du collectif, je trouve que ça c'est très positif. Alors peut-être, effectivement, moi je suis tout à fait pessimiste, je pense que ça ne peut pas jouer de rôle, le désinvestissement ne peut pas jouer de rôle dans le monde dans lequel on est, en fait, quand on regarde. Mais par contre, peut-être que au lieu de dire qu'on désinvestit, on peut peut-être se mettre ensemble pour investir. Enfin, je veux dire, je vois qu'on peut retourner toute l'initiative d'Edouard dans un sens où peut-être on peut imaginer que les gens financent ensemble certaines choses, vous voyez. Et ça, par contre, c'est concret, parce que ne pas faire, bon, il y a toujours des gens pour faire à votre place, mais par contre, faire, c'est prendre une place. Et donc là, il y a peut-être quelque chose à réfléchir, à développer, et que je trouve tout à fait intéressant, en fait. Hein. Sortir du giron des grandes banques qui font tout et n'importe quoi, enfin, qui font leur business, et avoir une action, justement, une action dans une logique chrétienne, avec une mise en commun de moyens, et je pense qu'il y a des choses qui sont à faire. Après, pour répondre à votre question, c'est pas facile, mais c'est pour ça, il faut bien évaluer les choses. C'est, pour moi, c'est plus important aujourd'hui, en termes d'action, concrètement, c'est plus important d'être, par exemple, à l'époque, sur Notre-Dame-des-Landes, empêcher l'extension d'un aéroport et donc, pour qu'il y ait moins de carbone, ça, c'est plus concret et plus important que de se dire qu'on va vendre ses obligations Total Energy, vous voyez. Donc, il y a des choses à faire, y compris à l'échelle individuelle.
On arrive au bout, malheureusement. Edouard, si c'est de deux mots, vous pouvez, sinon non.
C'est de deux mots. Bon. Merci Julien pour cette invitation. Et pourquoi pas lutter contemplation, aller s'opposer à un projet d'aéroport à suivre.
Merci beaucoup à tous les deux. Peut-être que vous reviendrez nous parler de l'initiative commune que vous ne manquerez pas de mener ensemble. Je renvoie aussi l'internet de Lutte et Contemplation et du mouvement Laudato Si également pour découvrir cette campagne autour du désinvestissement des énergies fossiles. Mais Melchior, vous continuez d'en parler.
Tout à fait, parce qu'on a beaucoup pensé. Maintenant, on va agir. On va essayer de voir très concrètement comment on peut mettre tout ce qu'on a dit en place, en fait, avec toujours Lutte et Contemplation et le mouvement Laudato Si et le label Église Verte également. Dans un instant, vous allez entendre deux chrétiens qui ont commencé d'ailleurs, et également avec vos témoignages, toujours au 04 72 38 20 23 et par mail à direct@rcf.fr. À tout de suite.